Ma vision aujourd'hui de l'African fashion, ce serait qu'on puisse garder, je sais que c'est difficile, hein, mais de garder cette label de Made in Africa. Et quand on dit Made in Africa, c'est pas seulement en termes de logistique, en termes de création, mais c'est aussi en termes de créativité. J'envisionne et je vois en fait cette industrie devenir une sorte de hub de créativité. Vraiment, parce que déjà, le continent africain, pour moi, c'est le cœur de la créativité du monde. J'ai toujours dit ça et je le pense vraiment. Et je veux qu'en fait, l'Afrique soit vraiment le hub de la créativité africaine.
Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Africa Fashion Tour. Je vous emmène avec moi à la rencontre de créateurs basés sur le continent africain. Je vous invite à voyager à Abidjan, Dakar ou Bamako pour découvrir les parcours de professionnels talentueux, responsables et ambitieux. Au fil des interviews, je me rends compte que chaque entrepreneur veut contribuer au rayonnement de la créativité africaine sur le continent et au-delà. Ce podcast est un moyen de sortir des clichés du boubou et du wax pour présenter un éventail de tissus, de savoir-faire et de créativité trop souvent sous-représentés. Je suis Ramata Diallo, je suis professeure de marketing dans des écoles de mode parisiennes et je suis également consultante spécialisée dans l'accompagnement de porteurs de projets qui veulent lancer leur marque de mode. En 2017, j'ai assisté à ma première Fashion Week en Afrique et depuis, je voyage régulièrement sur le continent pour aller à la rencontre de ceux qui font la mode en Afrique. Le podcast est le moyen que j'ai trouvé pour partager au plus grand nombre une autre vision de la mode africaine.
Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Africa Fashion Tour. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Queen Elizabeth Iowa. Elle est entrepreneure dans les industries créatives. Aujourd'hui, elle est créateur programme manager chez LinkedIn. Elle a travaillé par le passé pour plusieurs marques de luxe de renommée internationale. Elle va partager avec nous son parcours depuis le Nigeria jusqu'à Paris en évoquant son rapport à la mode africaine et à la mode de manière plurigénérale. Bonjour Queen Elizabeth, comment vas-tu ?
Bonjour Ramata, je vais très bien. Et toi ?
Ça va super. Bah, écoute, je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode du podcast. Moi, j'ai jamais eu l'opportunité de parler avec la reine. Et donc, pour moi, c'est vraiment un honneur que de t'avoir ici.
Merci pour l'invitation.
Bah, je t'en prie. Du coup, comme d'habitude, moi, je commence toujours par la question, habituelle, pour essayer de connaître, un peu mieux, en fait, les personnes que j'invite. Donc, l'idée, c'est que tu te présentes et que tu nous racontes un petit peu qui tu es.
Bien sûr, c'est toujours une question difficile à répondre, mais je vais essayer de vraiment faire court. Donc, j'aime bien me présenter comme une multipotentielle, donc une femme multipotentielle franco-nigériane, en mission pour atteindre mon plus haut potentiel. Voilà, chaque jour, c'est vraiment ça qui me drive. Influencée par Lagos et Paris, les deux villes dans lesquelles j'ai grandi et j'ai évolué, et passionnée par l'industrie créative. Donc chaque jour, je décide vraiment de créer une vie alignée avec mes valeurs, tout en restant authentique. Et bien sûr, on a tout mon parcours carrière dont tu as cité, avec toutes les marques dans lesquelles je travaille. Mais ce qui est le plus important, c'est vraiment d'abord mon côté authentique et la façon dont je vis ma vie au quotidien.
Très bien, merci beaucoup pour ce premier partage. J'aime beaucoup en tout cas le fait que tu parles de cette notion un petit peu de un engagement quotidien à essayer d'être la meilleure version de soi. Et ça, c'est vrai que c'est des démarches qui sont pas toujours mises en avant en fait quand on se présente. Et c'est vrai qu'en réalité, quelque part, on est un être en évolution et en mouvement permanent.
C'est ça. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important parce que, comme tu as pu le voir par rapport à ma carrière, ça évolue tout le temps. Donc, je change tout le temps de mission. Donc, qu'est-ce qui reste constant? C'est vraiment voilà mes valeurs et la façon dont je... Enfin, ma vision de la vie, en fait. Donc, j'aime bien me présenter avec ça.
Ok, super. Bah, très bien. Merci beaucoup. Du coup, tu as évoqué le fait que toi, tu es franco-nigériane et que du coup, tu as évolué entre Lagos et Paris. Est-ce que tu peux nous en dire plus, du coup, sur ton parcours de vie?
Yes, oh my god. Parcours de vie, je peux commencer par dire que donc moi je suis arrivée en France à l'âge de 10 ans. Donc je suis née à Lagos, Nigeria, j'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 10 ans et parce que mon père il travaillait pour le ministère des Affaires étrangères, il a été muté à Paris et donc du coup je suis venue à Paris vraiment dépaysé en voyant un nouveau pays pour la première fois. Je parlais pas le français, vraiment complètement déconnecté de ce pays. J'ai commencé à évoluer, à grandir, à apprendre la langue, la culture. Et pour parler un petit peu de mes études, donc j'ai fait un parcours assez classique, mais très influencé par mon background anglophone. Parce que je pense que j'ai vécu un sorte je dirais pas un trauma, mais un sorte de attachement au Nigeria dans le sens où je cherchais toujours des choses en France qui va me rappeler en fait d'où je viens, d'où je venais. Et donc à chaque fois, je sélectionnais vraiment intentionnellement des options ou des choses à l'école qui va me rappeler que je viens du Nigeria, j'ai un background anglophone. Donc, j'ai fait un bac L avec mention bien. Et ensuite, j'ai fait une licence en langue étrangère appliquée avec l'option commerce international, tout en gardant vraiment le côté anglophone parce que c'est ça qui me faisait sentir à la maison. Et en faisant un stage de fin d'études, je découvre une marque de mode et je découvre l'univers en fait du digital. Donc c'est ça qui a vraiment influencé après ma carrière et mes passions parce que je suis vraiment passionnée par la beauté et la mode. Et je te raconterai aussi comment la mode est venue dans ma vie. Et par la suite, donc j'ai continué à faire un master en commerce international, en marketing digital.
Ok, très bien. Alors, ce qui est super intéressant dans ton parcours, c'est qu'on sent qu'il y a une forme de détermination puisque dès le départ, tu as évolué en fait dans un environnement que tu as voulu international en vraiment continuant de manière permanente à mixer le côté anglo-saxon et le côté francophone au quotidien, dans ta carrière et dans les univers dans lesquels tu as travaillé, bah, c'est ce que tu as continué à faire, en fait. Et tes études, elles témoignent de ça, puisque tu as travaillé dans le commerce international. Enfin, tu as étudié dans le commerce international. Donc, on sent vraiment un déterminisme ou une vraiment volonté d'écrire, en fait, sa voie dans un domaine et un environnement international dès le départ.
Ouais, tu as tout à fait raison, Aramata, puisque je voulais vraiment, vraiment garder ma différence. Donc, ma différence, c'est le fait que je viens du Nigeria, je parlais pas français quand je suis arrivée en France, mais je me suis créée une voix ici. Je pense que j'avais vraiment cette soif d'apprendre et cette soif aussi de me découvrir. Et j'ai rajouté vraiment mon côté francophone à mon identité pour en faire vraiment quelque chose d'unique. Et je voulais vraiment pas me séparer en fait des deux. Donc c'est pour ça que souvent quand les gens me posent la question est-ce que je me sens plus nigériane que française, je leur dis non, il y a pas, je dois pas choisir entre les deux, c'est les deux qui font qui je suis aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça a été vraiment influencé notamment dans mes études, mais aussi dans ma carrière. Et aujourd'hui je suis très fière de pouvoir mêler en fait et danser entre ces deux mondes qui font la personne que je suis aujourd'hui.
Ok, et tu dirais, parce que parfois il y a des personnes quand ils arrivent comme ça, en plus à un jeune âge, dans un pays que tu ne connais pas, tu vas chercher à te fondre dans la masse, à t'intégrer, et tu vas pas forcément garder ton identité première. Au contraire, tu vas te dire je vais vraiment apprendre le français et presque, je vais pas dire gommer en fait tes origines, mais en tout cas chercher à t'intégrer au maximum. Et toi, on sent que l'intégration, elle est passée par l'affirmation de ton identité et de ta différence.
Tout à fait. Et je dois vraiment donner shout-out et crédit à mes parents parce que l'éducation à la maison joue beaucoup. Donc, à la maison, on parle anglais, on parle mes langues ethniques, on mange nigérien. Donc, ça, je pense que ça a gardé vraiment mes valeurs, mes traditions, ma culture. Ça a été imprégné vraiment dans mon quotidien, même en étant à Paris, même en étant en France. Et je pense que ça m'a vraiment permis de continuer à explorer ma culture parce que je pense que je suis partie à l'âge de 10 ans. Donc, à l'âge de 10 ans, je suis encore un bébé. Donc, j'ai encore des souvenirs de mon enfance. Mais, il y a encore des choses que je connais pas, en fait, du Nigeria. Et je pense que le fait que j'étais attachée à cette culture-là, ça m'a aussi permis de continuer à explorer, notamment au travers de la musique, l'afrobeat qui était vraiment mon quotidien, au travers de la mode, parce que ma maman, elle est fashion designer. Donc, il y a toutes ces industries qui étaient vraiment imprégnées au quotidien. Et c'est grâce à ça que ça m'a vraiment aidé à garder ma culture.
Ok, très bien. Bah, écoute, super intéressant d'avoir ça et de parler effectivement de ta famille et finalement ton ancrage au niveau de tes traditions et ta culture, il est vraiment lié aussi au fait qu'au quotidien, comme tu le dis, tu l'as cultivé. Maintenant, on va aller, du coup, une fois que tu obtiens ton master en commerce international, quelles sont tes premières expériences professionnelles?
Wow, donc j'aimerais bien raconter une petite histoire parce que je pense que c'est important de comprendre d'où vient un petit peu ma carrière dans le digital. Donc un jour comme ça, je me baladais et il y a une femme qui m'arrête dans la rue de Paris en me posant la question « Comment vous faites vos sourcils ?» J'étais assez agréablement surprise par cette question-là et j'essaie de expliquer à la personne rapidement, donc je fais comme ça avec ce type de maquillage, et elle me dit, mais pourquoi vous vous lancez pas sur YouTube? Pourquoi vous vous lancez pas sur YouTube? Vous faites une vidéo sur vos sourcils, comme ça vous pouvez me partager le lien et aussi partager à un plus grand nombre. Donc à l'époque, moi j'étais vraiment pas encore dans les réseaux sociaux, c'était vraiment pas encore mon truc. Donc je me suis dit, ok, pourquoi pas? Et c'est comme ça que je me suis lancée sur YouTube et c'est comme ça que j'ai découvert le monde du digital. C'était vraiment la petite graine qui a été semée, en fait, dans mon esprit. Je me suis dit, waouh, quel monde incroyable, en fait. Un monde où tu peux te connecter avec plein de gens, où tu peux partager tes passions. Et c'est à ce moment-là que je décide, en fait, de commencer à faire des vidéos YouTube et de m'intéresser au digital. Donc, ma première expérience professionnelle était vraiment un stage de fin d'études. Lorsque je faisais ma licence, lorsque j'ai fait un stage de fin d'études dans une entreprise de mode, dans une petite marque de mode, où j'étais chargée de web marketing. Donc, je faisais tout ce qui était réseaux sociaux, je prenais du contenu. Et c'est là que j'ai découvert tout le monde de la création de contenu, Instagram et tout ça. Et c'est ça qui a continué à développer ma carrière. Et par la suite, j'ai voulu rêver grand. Et ça, c'est quelque chose que mes parents m'ont toujours impliqué. Ils m'ont toujours impliqué d'inspirer, de rêver grand, de pas juste dire que oh, je vais juste faire une petite marque ou je vais juste aller faire cette petite chose. Non, toujours rêver grand et de viser haut. Donc, je me suis dit, ok, je vais rêver grand et je vais viser le plus haut, c'est-à-dire LVMH. Et donc, c'est là que j'ai commencé à postuler pour LVMH pour faire mon stage de fin d'études. Et donc, j'ai passé un an chez LVMH, dans lequel j'ai travaillé pour Givenchy et Kenzo et la marque Make Up Forever. Donc, j'ai fait 6 mois chez Givenchy et Kenzo et ensuite, j'ai fait 6 mois chez Make Up Forever. Et j'étais chargée de vraiment tout ce côté social media, sur les réseaux sociaux, le côté influence aussi. Donc, travailler avec des influenceurs, travailler avec des créateurs, créer des campagnes. C'était ma première expérience dans le luxe. Et c'est là que je me suis dit, waouh, je suis vraiment passionnée par cette industrie. C'est une industrie qui colle vraiment à ma personnalité. Mais au-delà de ça, j'ai été vraiment impressionnée par le pouvoir de raconter des histoires. L'histoire qu'on veut, de pouvoir toucher les gens et pouvoir créer ce côté un peu desirability. Donc, le désir, en fait, pour que les gens puissent acheter des produits. Donc, par la suite, j'ai voulu continuer dans le luxe et continuer dans l'univers des cosmétiques et de la beauté. Donc, je suis partie chez Estée Lauder, dans la marque Bobbi Brown, pour travailler dans le côté brand et content. Donc, je travaille beaucoup avec les make-up artistes de Bobbi Brown, dans lequel j'ai monté un énorme projet régional qui était Social Media Ambassadors. Le but était de transformer des make-up artistes à devenir des influenceurs sur Instagram. Et c'était vraiment un projet qui a vraiment aidé Bobbi Brown à cartonner sur les réseaux sociaux, parce que du coup, on avait les make-up artistes qui devenaient vraiment des social media influencers et qui avaient vraiment cette capacité de créer des communautés sur Instagram et pouvoir aussi transmettre les valeurs de la marque et transmettre le savoir de la marque et vendre le produit. Donc, on avait vraiment les trois besoins de Bobbi Brown dans une personnalité, et c'était ça qui a vraiment aidé Bobbi Brown à continuer à cartonner sur les réseaux sociaux. Et donc, j'étais très fière de ce projet et je me suis dit, OK, je vais continuer à évoluer là-dessus. Et après, donc, je suis partie chez Paco Rabanne. Donc, j'ai passé presque 3 ans chez Paco Rabanne. J'ai démarré avec une marque niche. Donc, c'était une création de marque carrément. Et je voudrais souligner un point, pourquoi, en fait, j'ai été recrutée pour ce poste. C'est parce que j'avais mon personal branding. Donc, comment je pourrais dire ça, tout en faisant mes stages et toutes mes expériences dans le luxe, je développais mon personal branding, c'est-à-dire que j'investissais dans ma marque personnelle sur les réseaux sociaux. J'étais entrepreneur aussi à côté, donc je faisais des workshops. J'essayais vraiment de développer une voix, en fait, sur les réseaux sociaux. Et lorsque j'ai postulé, voilà, pour Paco Rabanne, ils m'ont recruté parce qu'ils m'ont dit, OK, on voit que vous êtes vraiment passionné par cet univers-là et vous avez cette capacité aussi d'innover, d'entreprendre, et c'est vraiment ce qu'on recherche. On recherche une personne qui pourrait vraiment construire une marque from scratch, donc vraiment par zéro, l'emmener à une vision vraiment la plus haute possible. Donc, je démarre chez Paco Rabanne avec une marque qui s'appelle Queendom. C'était une petite marque niche qui a pour but de... C'est une marque féministe, en fait. C'est vraiment une marque féministe qui a pour but d'aider les femmes à s'accepter au travers de la beauté. Donc, je fais ça pendant 1 an où je travaille sur les réseaux sociaux, je fais toute la création de contenu, toute la vision stratégique dans le digital. Je travaille avec des agences, des make-up artistes. Et j'étais aussi make-up artiste pour la marque parce que forcément, on avait un budget restreint. Donc, je devais aussi faire du make-up et utiliser mon expérience sur YouTube pour pouvoir utiliser cette compétence-là. La photographie aussi, j'ai appris à faire de la photographie. Donc, j'étais photographe aussi, vidéaste, enfin, vraiment tout. Et après cette expérience-là, ils m'ont dit, donc je vois que vraiment vous êtes vraiment incroyable sur ce poste, vous avez vraiment fait évoluer la marque, on va vous passer sur la marque la plus importante du groupe qui était Paco Rabanne. Et c'est là que je bascule sur Paco Rabanne pendant 2 ans pour développer le côté digital. Et le côté digital, les réseaux sociaux, l'influence aussi. Au global. Donc, toutes mes postes ont toujours été à l'international. Vraiment, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, qui me tient aussi à cœur aujourd'hui, de continuer à évoluer dans un monde international. Et enfin, et aujourd'hui, j'ai voulu me challenger. Je me suis dit, OK, je vais sortir un petit peu du luxe pour voir un petit peu qu'est-ce que je peux faire, mais tout en restant dans l'industrie créative. Et donc, je me lance dans une mission hyper complexe qui est de transformer LinkedIn pour devenir une plateforme pour les créateurs. Une plateforme où les personnes peuvent apprendre à développer leur réseau, développer leur communauté et se créer des opportunités. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais aujourd'hui au quotidien en étant creator manager pour la France et l'Afrique, dans lequel j'évolue chaque jour en aidant des professionnels à se développer. C'était un petit peu long, mais voici mon parcours professionnel.
Écoute, c'est jamais trop long. Le but du podcast, c'est justement de te donner tout le temps nécessaire pour que tu puisses te raconter. Donc, ce n'est jamais trop long. Et en plus, c'est passionnant. J'ai 1 milliard de questions. Donc, du coup, ce que je trouve extrêmement intéressant dans ce que tu expliques, c'est le fait de... OK, je cherche un job dans une entreprise, mais en parallèle, je suis entrepreneur. Voire même, j'ai l'impression que c'est le fait d'être entrepreneur qui te définit en premier. Et donc, il n'y a pas ce côté, je cherche un CDI et ça va occuper tout mon temps. Non, en fait, je suis entrepreneur, j'ai mes différentes activités et c'est ça qui finalement, c'est ma carte de visite qui fait que les gens veulent travailler avec moi.
Absolument.
Et du coup, par rapport à ça, ma question, c'est, voilà, quand tu dis que tu es entrepreneur, qu'est-ce que tu faisais exactement? Je comprends que tu avais une chaîne YouTube, que tu as fait de la photo, de la vidéo. Est-ce que c'est ces différentes compétences-là que tu as acquises, que tu développais pour toi? Voilà, qu'est-ce que tu faisais exactement en tant qu'entrepreneur?
Bien sûr. Donc, tu as tout à fait raison. Je me considère comme une entrepreneuse de ma vie d'abord. Vraiment, j'entreprends ma vie. Mon activité entrepreneuriale, en fait, a été guidée par les besoins dont les gens me faisaient part. Donc, moi, j'ai toujours été dans cette mindset de je crée pour résoudre des problèmes, pour répondre à un problème, pour apporter des solutions. Donc, mon aventure entrepreneuriale a commencé, bien sûr, sur YouTube. Moi, je considère que lorsqu'on est YouTuber, on est entrepreneur parce que entreprendre, c'est créer des choses. Donc, je crée des vidéos, j'étais monteuse, j'étais maquilleuse, j'étais vidéaste, photographe, storyteller, marketer. Donc, j'étais entrepreneur, même si j'avais pas forcément une entrée d'argent, mais j'entreprenais chaque jour en faisant des vidéos. Et par la suite, en fait, quand j'ai commencé à développer mon personal branding sur Instagram, c'est là où j'ai commencé à avoir énormément de personnes qui m'envoyaient des messages en disant « Comment tu fais ?» pour développer ta voix sur les réseaux sociaux, sur Instagram, comment tu fais pour justement avoir cette confiance sur les réseaux sociaux, comment tu es confortable en caméra, comment tu fais pour développer tout ça. Je me suis dit, il y a peut-être un besoin, en fait, les gens ont un besoin de se développer sur les réseaux sociaux. Donc, je me suis lancée en tant que consultante réseaux sociaux, donc en tant qu'experte, si on peut dire, réseaux sociaux. Ce que je faisais, c'était d'aider, en fait, des entrepreneurs, des créatifs, des blogueurs à développer leur voix sur les réseaux sociaux. Donc, comment je faisais, c'était au travers des workshops, au travers des masterclass, où je faisais des masterclass en invitant des experts dans leur domaine, des photographes, des vidéastes, des spécialistes dans la communication, et moi-même en tant qu'experte, pour justement aider toutes ces professionnels à se développer sur les réseaux sociaux. Parce qu'à l'époque, c'était en 2018, il n'y avait pas énormément de ressources, en fait, sur comment on peut développer sa voix authentiquement, en fait, sur les réseaux sociaux, de façon authentique. Et je trouvais, ça, c'était vraiment ma valeur ajoutée, c'était comment tu peux rester toi-même tout en apportant une valeur ajoutée sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai fait ça pendant, et jusqu'aujourd'hui, hein, c'est ce que je le fais, et aujourd'hui, ça prend de différentes ampleurs parce que forcément, ça a évolué. Mais c'était vraiment cette activité-là que je faisais. Et à côté, j'étais consultante pour des top entrepreneurs, donc des entrepreneurs un peu high profile, c'est-à-dire que je vais passer toute une journée avec une entrepreneur. J'ai un exemple où je passais toute une journée avec une make-up artiste pour l'aider à développer vraiment son activité sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pas seulement que le côté créatif et le côté réseaux sociaux contenu, mais le côté aussi business. Donc, en termes de stratégie de business, parce que ce qu'on se rend compte, enfin, ce que moi, je me suis rendu compte, c'est que le business, c'est pas seulement des chiffres, mais c'est toute une histoire de storytelling et de marketing. Et par mon expérience dans le passé, par mes stages, par ma carrière et ma curiosité, en fait, tout ce que je développais à côté, en fait, de mon travail, m'a permis de développer, en fait, une sorte de qualité et de compétences pour aider, en fait, des entrepreneurs à développer leur activité. Donc, je misais énormément sur le storytelling et sur le marketing pour les aider. Donc, voilà, c'est ce que je faisais, en fait, à côté en tant qu'entrepreneur.
Ok, très bien. Bah, c'est super intéressant, en tout cas, d'avoir cette dimension-là. Et t'as toujours réussi à, comment dire, jongler entre les deux activités, c'est-à-dire cette activité d'entrepreneur, de consultante disponible pour des professionnels, et en parallèle, le fait d'avoir un job en CDI. Et de ce que tu nous as décrit, c'est des jobs à responsabilité où t'avais une charge de travail qui était quand même importante.
Oh my God, je te mentirais si je te dirais que j'arrivais à jongler ça avec sérénité. Non, c'était compliqué dans le sens où lorsqu'on est une personne vraiment très passionnée, donc moi je suis une personne passionnée, donc parfois je donne mon temps sans me rendre compte que je donne mon temps. Donc j'ai dû vraiment apprendre à être productif tout en étant en mettant des limites à ma capacité. Donc, c'est-à-dire que toute la semaine, je me focalisais sur mon 9 to 5, donc c'est-à-dire mon activité salariale. Et le week-end, je me focalisais sur mon activité entrepreneuriale. Et entre-temps, j'essaie de souffler. Entre-temps, j'essaie de faire, de voir la famille et de construire aussi ma vie personnelle. Mais en fait, c'était vraiment de la passion qui me drivait. Et cette passion-là, elle me permettait de pousser mes limites et de continuer à évoluer. Donc, il y a des fois où j'avais vraiment du mal à jongler entre les deux et je faisais des pauses. Donc, c'est-à-dire que je vais prendre moins clients que d'habitude, ou sinon je vais faire par exemple un workshop par mois, donc ça me permettra vraiment de répondre à un plus grand besoin, à un plus grand public. Donc c'est ce que je faisais en 2018, je faisais voilà des workshops tous les mois et je prenais peut-être quelques clients dans le mois, mais pas énormément justement pour me focaliser sur ma carrière. Et il y a des fois où j'avais beaucoup plus d'énergie et ça me permettait de prendre en fait plus de personnes. Mais c'est pas évident comme je sais qu'aujourd'hui il y a énormément d'entrepreneurs et de salariés qui ont du mal à jongler entre les deux, et je pense que c'est quelque chose qu'on il faut apprendre à connaître ses limites, savoir comment où est-ce qu'on peut y aller. Parfois on se brûle de temps en temps, mais c'est important de mettre des boundaries, vraiment des limites, et pour pouvoir voilà toujours rester toujours donner le meilleur de soi en fait pour chaque responsabilité.
Ok, très bien. J'ai une autre question qui me vient, c'est du coup, est-ce que toi aujourd'hui, ton équilibre, il est vraiment d'avoir un job 9 to 5, même si je pense pas que ce soit réellement 9 to 5, et finalement continuer à avoir cette activité entrepreneuriale en même temps, ou est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, je vais passer full time sur la partie entrepreneur et je vais être finalement, je vais créer en fait mon entreprise?
C'est une tellement question, et là tu vas être un spoiler dans mes projets à venir. Mais en fait, je pars de la vision et de mindset où mon 9 to 5 contribue à mon aventure entrepreneuriale. Donc si tu regardes vraiment ma carrière et mon aventure entrepreneuriale, tu vois que tout est aligné en fait. C'est-à-dire que j'ai toujours été inspirée par ma carrière pour faire mon aventure entrepreneuriale et vice-versa. Donc aujourd'hui, si je continue mon 9 to 5, ça va être des postes en fait qui va forcément nourrir en fait mon aventure entrepreneuriale. Il y aura toujours des liens, des choses qui vont m'apporter en fait. Et ça, c'est quelque chose que je suis très intentionnelle par rapport à ça. J'ai jamais choisi un poste qui va pas nourrir mon aventure entrepreneuriale. Que ce soit même LinkedIn, ça nourrit mon aventure entrepreneuriale. LVMH aussi, ça nourrit. Et Paco Rabanne. Donc, dans les années à venir, pour mes prochains challenges 9 to 5, je vais faire en sorte de voilà d'aligner ça, d'aligner en fait avec mon aventure entrepreneuriale, parce que ce que je me suis rendu compte, c'est que avec mon 9 to 5, je touche des gens que je pourrais pas toucher avec mon entreprise, et pour moi ça c'est aussi une valeur ajoutée dans ma carrière. Donc je ne ferme pas la porte de faire un 9 to 5, tu vois, dans le sens où si le 9 to 5 est aligné avec mon aventure entrepreneuriale. Mais bien sûr, je suis en création d'un gros projet vraiment qui va me permettre de lancer mon entreprise, développer mon entreprise à plus grande échelle, et ça c'est à venir, donc à suivre pour les années à venir.
Très bien, bah écoute, merci de partager ça. En tout cas, c'est j'aime beaucoup ta vision, parce que il y a tout un discours sur LinkedIn et ailleurs sur le fait de lancer son entreprise, de se mettre à son compte, d'être indépendant, et je pense que c'est pas forcément fait pour tout le monde, et je trouve ça important d'avoir cette dimension un peu, c'est un side job, ou c'est pas forcément considéré comme side, mais c'est je fais les deux en même temps et je gère mon temps et ma vie pour pouvoir faire les deux, et on n'est pas obligé de choisir en fait.
Exactement, et en fait le plus important pour moi c'est l'alignement. Par exemple, moi je pourrais pas faire un travail qui n'a rien à voir avec mon aventure entrepreneuriale, qui n'a rien à voir avec mes passions, qui n'a rien à voir avec qui je suis. Je ne pourrais pas, parce que j'aurais cette impression d'être déconnectée en fait de qui je suis. Donc j'ai toujours ce besoin d'aligner en fait les choses par rapport à les choses qui me passionnent et des choses qui m'intriguent et ma curiosité. Donc, j'ai jamais vu en sorte le 9 to 5 comme un fardeau, en fait, dans ma vie. Le seul moment où je vois pas comme un fardeau, mais je me dis, OK, là, j'ai besoin d'un changement, c'est lorsque j'arrive à un pic où, en fait, je me dis, OK, là, j'ai plus de challenge, je me sens plus alignée. J'ai l'impression que je veux plus, c'est vraiment ça, je veux plus, je veux grandir, je veux évoluer. Et c'est là que je bascule à un autre challenge qui va me permettre d'évoluer, mais tout en gardant mes passions. Je trouve que c'est tellement important parce que la vie est tellement courte que je peux pas en fait être dans un travail qui va... par exemple, je pourrais pas être, je sais pas, infirmière ou je sais pas, médecin. Ça, c'est un truc que je ne pourrais pas, même si je pourrais gagner des millions. Si c'est possible, mais je ne pourrais pas parce que j'aurais l'impression de ne pas vivre la vie que j'ai envie de vivre, en fait.
Ok, très bien. Mais on sent que pour toi, en fait, la passion, c'est vraiment ce qui va guider les choix que tu vas faire et c'est sans concession. Alors, maintenant, j'avais envie d'aller... en fait, tu nous as dit que ta maman était fashion designer, donc j'imagine que c'est en partie d'elle que tu tiens... ton attrait pour la mode. Après, on sait que le Nigeria, le rapport à la mode de manière générale dans ce pays-là et la force des industries créatives au Nigeria, elle est vraiment extrêmement forte. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, tes premiers moments où tu t'es dit, voilà, la mode, c'est vraiment quelque chose qui va avoir une part importante, en fait, dans ma vie?
Ouais, c'est vraiment quelque chose qui est assez crucial et assez important pour moi. Comme je disais, ma maman, elle est fashion designer depuis l'âge de, je dirais même 13, 14 ans. Enfin, et aujourd'hui, elle en a 52. Donc, ma première relation avec la mode, c'était vraiment avec ma mère. Donc, comme je disais, elle est fashion designer. Elle était vraiment spécialiste du wax. Elle avait étonné une boutique au Nigeria où elle faisait des vêtements pour les personnes à Lagos, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes, que ce soit des enfants. Elle était vraiment une sorte de tailleur, de couturière, mais aussi de designer. Donc, j'ai vraiment grandi dans cet univers très créatif. Donc, imagine Ramata dans un univers où tu vois une personne qui est... ta première, en anglais on dit caregiver, qui est vraiment ta première personne que tu vois qui transforme des vêtements en quelque chose d'extraordinaire, qui découpe des choses et qui a cette capacité de créer en fait quelque chose qui n'existe pas dans ton esprit. Donc j'ai grandi dans cet univers créatif au quotidien à chaque fois. Donc avant d'être une industrie, pour moi, avant d'être une industrie, une tendance, c'était un lifestyle, c'était une mode de vie au quotidien. C'est une nécessité, en fait. Donc, à chaque fois, je dis ça aux personnes qui me posent la question, oui, qu'est-ce que tu penses, en fait, de l'industrie créative, de la mode nigériane? Je dis, mais avant d'être une mode, une industrie, c'était une nécessité de se vêtir. C'est-à-dire que les personnes qui venaient se vêtir et qui venaient, en fait, acheter des vêtements, c'était par nécessité et pas par tendance, en fait. Donc, ça, c'était vraiment mes premiers pas dans la mode. Et aujourd'hui, ma vision de la mode, c'est vraiment l'essence même et l'expression même de la créativité, la puissance de raconter nos histoires au travers des vêtements.
Très bien, merci pour ce partage, super intéressant de voir effectivement, on sent que tu as baigné en fait dès ta plus tendre enfance dans un univers créatif. Ouais. Donc quand tu parles de, je pense qu'au Nigeria il y a vraiment quelque chose de spécifique et en Afrique de manière générale dans le rapport en fait, je dirais dans la description du consommateur de mode. Toi, comment tu décris en fait le consommateur de mode au Nigeria ou en Afrique de manière de plus large? Si tu devais le décrire, qu'est-ce qui peut-être va le différencier d'un Français, par exemple?
Oh yeah, ah ouais, ça c'est une super belle question. Parce que je trouve que l'écosystème de la mode en Afrique est complètement différent de l'écosystème global. Même si on compare par exemple l'Europe et l'Afrique, ça n'a rien à voir en termes d'écosystème. Donc par exemple en Afrique, moi je trouve qu'on a, quatre piliers de l'écosystème en Afrique. On a d'abord les créateurs, donc vraiment les créateurs de vêtements, les qui va être plus le côté voilà haute couture, vraiment on va citer les les Magugu, les Maya Tafo, donc ça c'est vraiment les créateurs. Après on a les stylistes qui peuvent aussi être des créateurs. Ensuite après on a les tailleurs et les couturières, les couturiers, et après on a les artisans. Moi, pour moi, ça c'est vraiment les quatre piliers de l'écosystème du consommateur en Afrique. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que lorsqu'on va regarder vraiment à l'intérieur de cet écosystème, on se rend compte que quand on parle par exemple de couturier, c'est pas c'est quelque chose qu'on fait au quotidien. C'est vraiment comment je pourrais dire ça? C'est vraiment un marché, un besoin, c'est une nécessité, c'est un lifestyle qu'on fait au quotidien. Donc, par exemple, quand je suis au Lagos, je suis en train de penser, OK, quel type de vêtements que je vais faire avec mon couturier, en fait. Je vais aller chez mon couturier, je vais lui montrer un modèle en disant, OK, j'aimerais bien me faire ce modèle. Il va me le faire sur commande. C'est quelque chose qui est complètement différent lorsqu'on est, par exemple, à Paris ou lorsqu'on est en Europe. C'est un système modèle qui est complètement différent. Donc, pour moi, ce qui différencie, en fait, la mode en Afrique par rapport à d'autres continents, c'est vraiment ces différents écosystèmes. Et je voudrais aussi souligner un point qui est vraiment le côté le secteur en fait industriel de l'habillement en Afrique, qui est complètement différent. On pourrait pas y croire hein, parce que on a le côté fashion, donc African fashion, dans le côté industriel, c'est-à-dire que toutes les marques, pas seulement des marques, mais des entreprises, des warehouses qui créent des tenues, des textiles, en fait, pour les marques internationales comme H&M, comme le fast fashion, ça, c'est toute une industrie, en fait, tu vois. Donc, je trouve que c'est important de pouvoir lister et différencier toutes ces piliers, en fait, de l'écosystème de la mode en Afrique.
Très bien, merci pour cet éclairage qui est effectivement très important et qui remet un petit peu, des explications en tout cas sur les différences qu'il peut y avoir entre l'écosystème de la mode tel qu'on le connaît en Occident et la manière dont ça peut fonctionner en Afrique. Et ton exemple est super intéressant sur le côté, de manière générale, un potentiel consommateur africain, il va avoir cette tendance naturelle à j'achète un tissu et je vais aller voir un couturier, un tailleur et je vais aller faire fabriquer mon vêtement. Et c'est quelque chose, de la même façon qu'ici, on va aller chez Zara, chez H&M ou dans une boutique de luxe pour acheter du prêt-à-porter. La notion d'acheter du sur-mesure, en Afrique, ça reste encore quelque chose de tout à fait courant. Et pour le coup, c'est toutes les couches de la population, de la personne la plus aisée à la moins aisée, aller chez son tailleur, c'est une habitude qui est généralisée pour tout le monde.
Tout à fait. Et je pense que c'est un besoin pour... en fait, ça répond à des besoins, en fait, tout simplement. Et je trouve qu'aujourd'hui, on n'a pas le même mindset ici en Europe ou en Occident, où en fait, parfois, on va faire du shopping, pas parce qu'on a besoin, parce qu'on a juste envie de faire du shopping. Alors qu'en Afrique, en fait, c'est un besoin. C'est vraiment, ces couturiers répondent à un besoin. Et je voudrais aussi souligner l'avantage aussi de l'écosystème de la mode en Afrique, c'est que le fait qu'en fait, qu'on est focalisé sur de faire en fait les choses sur commande, de sur mesure, ça nous permet en fait de nous positionner sur un des problèmes les plus importants en fait du monde, qui est vraiment le fast fashion. Et ça nous permet de nous positionner pour le sustainability. Et je trouve qu'aujourd'hui, l'Afrique répond à ce besoin, répond en fait, l'Afrique est la solution en fait à ce besoin. Et c'est quelque chose qu'on a fait inconsciemment. C'est pas comme si on s'est levé un matin pour se dire, OK, on va faire sustainability. Non, on faisait ça déjà en fait, ça fait partie de nos quotidiens. Donc aujourd'hui, je pense que si ce qui est vraiment, et c'est pour ça que l'African fashion est aussi mis en avant aujourd'hui et que on a une sorte de lumière sur l'African fashion, parce que dans les années à venir, en fait, on va tous se regarder, tous se retourner en fait On va tous retourner en Afrique en disant « Ah ouais, en fait, on avait la solution, en fait. » L'Afrique est vraiment le cœur, en fait, du monde. C'est là où, en fait, on a toutes les solutions du monde, en fait. Donc, et c'est, moi, je trouve que c'est un point assez intéressant et c'est assez marrant, en fait, de se dire qu'on faisait ça sans se rendre compte que c'est quelque chose qui va répondre à un besoin, un problème, en fait, dans le monde.
Ok, effectivement, c'est important de souligner la dimension éthique du fait de travailler. Donc, le sur-mesure, ça va vraiment être quelque chose qui est habituel chez de nombreux consommateurs. Donc, c'est pas une part du business qui est toute petite comme on peut le considérer en Occident. Et quand bien même on travaille avec des stylistes et des créateurs que tu as pu citer ou des artisans, quand ils font des séries, c'est toujours des éditions limitées, des petites séries. On n'est pas dans de la production de masse, en fait, en Afrique.
Mmh, tout à fait. Et je pense que la production, et ça, je pense que c'est quelque chose qui va être un challenge dans le futur. C'est pour que le African fashion puisse développer une certaine visibilité au global. Je pense qu'il y a aussi ce côté un peu tentant de faire de la production en masse. Je pense qu'il y a ce côté un peu, si on fait de la production en masse, on peut répondre à un plus grand besoin. Du coup, on devient un petit peu un H&M africain. Et je pense qu'à l'avenir, je pense que ce besoin va vraiment augmenter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, en tant que consommateur, j'ai envie de m'habiller tous les jours en African fashion. Est-ce que c'est possible? Est-ce que j'ai le budget? Aujourd'hui, non. C'est très, très... Enfin, le African fashion a un prix, en fait, aujourd'hui. Et alors que le besoin et la demande est en train d'augmenter, mais l'offre, en fait, n'augmente pas forcément. Et je pense que ça va être vraiment un challenge à l'avenir. On va devoir vraiment réfléchir à des solutions pour pouvoir augmenter l'offre pour répondre à la demande.
Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et l'idée, c'est le challenge, c'est de proposer trouver des solutions innovantes qui permettent de produire en quantité plus importante, mais sans tomber dans les écueils qu'il y a pu y avoir en Occident et toutes les critiques qu'on peut faire de la production de masse. Donc pour moi, ça doit être un nouveau business model, une manière de faire les choses qui soient saines, en fait.
C'est ça. Et c'est là d'où vient, en fait, le potentiel de l'African fashion. C'est le fait qu'on voit ce problème-là et on se dit, OK, il y a des opportunités, en fait. Il y a des opportunités d'innovation, de créativité, de collaboration, de redéfinir les normes, redéfinir les standards. Et je pense que si on se focalise là-dessus, ça peut vraiment, vraiment positionner la mode africaine vraiment, comment on dit en anglais, en forefront, c'est-à-dire que vraiment au spotlight de la mode globale, en fait. Donc, moi, je suis assez excitée, en fait, de cette opportunité parce que je sais que ça va naître, en fait, énormément de projets innovateurs et créatifs.
Très bien. On sent de toute façon de la passion dans ton discours. C'est presque limite on se dit une espèce de manifeste politique, ambassadrice de la mode africaine. Mais du coup, je me reconnais complètement dans ce que tu peux évoquer là. L'un des sujets, je pense que toi, étant né à Lagos, et je pense que tu voyages régulièrement sur place, tu connais des marques africaines, tu sais où aller chercher les créateurs que tu apprécies. J'imagine que tu as ta liste de créateurs préférés. Mais on va dire beaucoup de personnes, la mode africaine, en dehors de dire la mode africaine, on n'est pas forcément capable de citer 5 créateurs issus du continent. Toi, comment tu expliques peut-être ce manque de visibilité, en fait, des créateurs du continent, des marques du continent?
C'est une très, très belle question. En fait, ce que moi, je pense, c'est que tout d'abord, on doit comprendre que la mode africaine n'a jamais été construite, en fait, pour être visible en Occident. Parce qu'on parle souvent pourquoi la mode africaine n'est pas visible en Occident. Ça n'a jamais été construit, en fait, pour être visible. En fait, la mode africaine, ça a été construit pour répondre à nos besoins, aux besoins des locaux, en fait. Donc, aujourd'hui, pour moi, c'est un petit peu normal que il y a cette manque de visibilité parce que c'est seulement aujourd'hui qu'on sent le besoin de raconter notre histoire et de s'affirmer, donc d'affirmer notre identité. Et bien sûr, t'as l'histoire, on a tout un passé colonial qui aussi nous a poussé à faire tout ça. Mais il faut comprendre d'abord que c'était pas un, voilà, un goal ou un objectif, en fait, de nous rendre visibles. Et aujourd'hui, en fait, pourquoi, en fait, on a cette manque de visibilité? C'est parce que, en fait, on a un sorte de manque de plateformes qui peuvent vraiment exposer, en fait, notre histoire. Je m'explique. Lorsqu'on compare, en fait, la mode africaine, par exemple, avec la musique, et qu'on voit combien l'éventail, en fait, de plateformes qui existent aujourd'hui. Et quand je dis plateforme, c'est pas forcément quelque chose de digital, c'est aussi les personnalités, les voix, les plateformes, en fait, les voix qui prônent, en fait, la mode africaine. Aujourd'hui, il y en a pas énormément. On va citer les Beyoncé, les Michelle Obama, les Ngozi. Oui, ça, c'est vraiment les grosses personnalités. Mais quand, au-delà de ça, on a la diaspora qui est là, qui peut aussi, au fait, utiliser sa voix pour diffuser cette mode africaine. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est encore upcoming, c'est-à-dire que c'est encore en process. Donc, il y a cette manque de visibilité parce qu'on n'a pas énormément de plateformes qui permettent d'exposer à quelqu'un qui est en Russie la mode africaine, en fait. Alors que tu as une personne en Russie qui va entendre Rema ou Ira Star, right? Donc, c'est d'abord pour moi, c'est vraiment cette manque de visibilité. Et comment on peut répondre à cette manque de visibilité? Je pense que c'est continuellement de continuer à raconter nos histoires et de se battre, en fait, d'avoir des plateformes qui nous permettent de nous exposer. Donc, par exemple, aujourd'hui, je sais pas si tu as pu suivre Lagos Fashion Week cette année, c'était vraiment incroyable. Comparé à l'année dernière, ou il y a 2 ans, ou il y a 3 ans, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, on a une sorte de, on a la diaspora qui est encore plus active que l'année dernière. On a les personnalités qui sont encore plus intéressées par la mode africaine et la mode nigériane en particulier. On a des plateformes qui se créent pour dénoncer, pour vraiment affirmer la mode africaine. Et je pense que d'ici quelques années, ça va continuer à exposer, ça va continuer à grandir.
Je suis complètement d'accord avec toi, effectivement. On sent que, c'est un mouvement que j'observe depuis plusieurs années, qu'il y a vraiment un engouement pour la créativité africaine et qu'il y a de plus en plus de collaborations qui se font, qui permettent de vraiment rendre visible davantage toutes les initiatives de promotion de la créativité africaine. Et c'était important de souligner aussi le fait que, à un moment donné, effectivement, les marques n'étaient pas visibles parce qu'elles ne cherchaient pas à être visibles. Or, maintenant, il y a effectivement des marques qui cherchent à être visibles, qui sont vraiment dans une dynamique de être présentes et de rayonner au-delà des frontières du continent. Et donc, toi, quels sont, selon toi, les endroits du monde qui sont les plus réceptifs à la mode africaine? Si on pense aux États-Unis, si on pense à la Grande-Bretagne, Londres, si on pense à la France, à l'Allemagne, est-ce que toi, tu as un sentiment comme ça de là où il y a des endroits, des lieux, des spots où il y a vraiment, on sent qu'il y a un engouement pour la créativité africaine?
Ah oui, ça c'est une super belle question. En premier lieu, bien sûr, je vais dire les États-Unis. Pourquoi les États-Unis? Bien sûr, par son histoire, l'histoire de ségrégation, d'esclavage. Donc, on a déjà une sorte de fondation qui rend, en fait, le continent, mais si on dit juste les États-Unis et pas avec le Canada et l'Amérique latine, mais qui rend vraiment les États-Unis sensibles à l'histoire africaine. Donc, il y a une première chose. Et bien sûr, depuis les dernières années, on a ce côté un peu return to Africa, back to Africa, back to the roots. On a énormément d'Américains qui veulent comprendre leur histoire, comprendre leur identité, qui font des tests d'ADN pour savoir d'où ils viennent. Et ça, je trouve que c'est incroyable. Ça prépare le terrain, en fait, pour réceptionner, en fait, la mode africaine et la créativité africaine. On a, par exemple, les Idriss Elba, qui va souvent au Ghana pour justement construire des choses au Ghana. On a the Year of Return au Ghana, qui a justement inspiré énormément d'Américains à venir au Ghana, à visiter le Ghana. On a énormément de collaborations entre les pays comme le Nigeria, le Ghana et d'autres pays comme l'Afrique du Sud avec les États-Unis. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment un pays qui va vraiment aider énormément de marques africaines. Et c'est assez marrant parce que j'étais à un événement qui s'appelait le Adicoms et dans lequel il y avait Sarah Diof, donc la fondatrice de la marque Tangoro, qui était présente, qui a donné un keynote speech où elle parlait de son histoire et aussi de l'évolution de Tangoro. Et elle nous disait que 60% de ses consommateurs, en fait, de ses clients, viennent des États-Unis, en fait. Donc, non seulement on a cet engouement de la mode africaine, de la créativité africaine, les Américains ont aussi the money. Ils ont aussi le pouvoir d'achat. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est pas seulement de raconter nos histoires et d'affirmer nos identités. Il faut aussi développer l'économie et l'industrie, en fait, de la mode créative. Donc voilà, pourquoi je dirais vraiment en premier lieu les États-Unis. Et bien sûr, on a d'autres pays en Europe qui peuvent réceptionner la mode africaine. Mais je pense que c'est aussi, c'est en progrès, on va dire, it's in progress. Je pense qu'aujourd'hui, une des stratégies des marques africaines, dans un premier temps, que tu sois une jeune marque qui se développe, que tu sois une marque en développement, si tu ne vises pas les États-Unis, tu passes à côté d'énormément d'opportunités de développement de ta marque.
Très bien. Bah, merci beaucoup en tout cas pour cette... ça fait en même temps, tu nous racontes depuis le début du podcast comment le consommateur finalement de mode africaine, comment en fait il va se comporter, comment est l'écosystème, et tu nous donnes aussi des conseils précis sur, pour une marque, quel est le marché à viser en fait. Et effectivement, je te rejoins, il y a le marché local et après quand on veut regarder... À l'étranger, les Amériques restent finalement la première piste à explorer. Maintenant, j'avais envie que tu nous partages aussi une petite liste de créateurs chouchous que tu peux avoir, que tu affectionnes particulièrement, grands ou petits. Pour moi, de toute façon, moi, je mettrais bien sûr les liens et les noms des marques que tu vas nous citer. Mais je trouve ça intéressant d'avoir tes tips en fait sur les marques qui sont intéressantes à spotter et à suivre.
Yes. Alors, chaque jour, je découvre une marque. C'est vraiment incroyable. Chaque jour, il y a une marque de mode africaine que je connais pas, que je découvre sur Instagram et je me dis, waouh. En fait, il y a vraiment une sorte d'accélération des créations de mode. Et je pense que, je vais juste rajouter ça, je pense que c'est hyper important de réfléchir comment on va réunir toutes ces marques-là, comment on va créer des plateformes qui va mettre en avant ces marques. Je sais que Industry Africa le fait déjà et il y a d'autres plateformes qui le font, mais moi je trouve que ça va aussi naître en fait d'autres problèmes. D'autres problématiques, ce serait, comme tu disais, le manque de visibilité. Donc, je pense que plus on a ces créations de marques, plus on aura besoin de plateformes pour les mettre en avant. Donc, c'est ce que je voulais rajouter. Après, moi, les marques que j'affectionne particulièrement, je les affectionne pas seulement par personal interest, c'est-à-dire que vraiment par passion ou intérêt personnel, mais aussi j'ai le côté un peu business, bien sûr, parce que je suis en train de me dire... ce type de marque, d'ici quelques années, elles vont vraiment se positionner comme les leaders, en fait, dans l'industrie. Donc, la première marque que je voudrais citer, même le designer, c'est un Nigérian, bien sûr, on va commencer par le pays. C'est le créateur de Orange Culture, qui s'appelle Adebayo Okelawal. Pourquoi je le cite? Je trouve que c'est... en fait, tu sais, on rentre dans un monde où on parle énormément d'inclusivité, de diversité, de genre. Et je pense que c'est hyper important que les marques s'intéressent en fait à ce besoin-là. Et Orange Culture, c'est vraiment une marque qui se positionne en fait comme une marque de l'expression de soi. Une marque inclusive, mais surtout une marque qui va défendre en fait les problèmes qu'il y a dans la société. Donc, c'est une marque qui va se positionner par exemple au Nigeria pour défendre la police brutality, donc la brutalité de la police, ou qui va se positionner pour pour parler en fait du changement de social impact au Nigeria. Et ça, je trouve que ça donne un côté vraiment ça prône et ça montre les valeurs de la marque. Et aujourd'hui, il y a un besoin de montrer ces valeurs. Donc moi, j'affectionne énormément cette marque-là et je pense qu'à l'avenir, c'est une marque qui va beaucoup grandir et qui va collaborer avec, avec d'autres personnalités. Après, bien sûr, on a les TV, Magugu, parce que je trouve qu'il a un style, il a un storytelling incroyable. Après, on a Mai Atafo. C'est un designer nigérian qui design énormément de tailleurs, de suits. J'adore. Je trouve que, tu sais, quand on va chez nos couturiers, on a vraiment besoin que nos vêtements soient vraiment fit. C'est très important. Et je trouve qu'il est excellent dans son domaine. Il rend les vêtements fit. Il rend les vêtements élégants. Vraiment la haute couture en son essence. Après, deux autres que je pourrais citer pour terminer, j'ai Andrea Yama, bien sûr. Je trouve que c'est un exemple parfait de comment on peut s'étendre en Occident. Et je pense que les gens devraient regarder son business model et voir comment elle est fait pour s'étendre en Occident. Et je terminerai par Sierra Dioff, peut-être parce que j'ai un attachement à son histoire, comment elle a créé sa marque et aussi comment elle a pu étendre sa marque à l'international avec bien sûr des Beyoncé, des Bonaboy et Disney. Mais je pense que si elle a un bon business model, elle a aussi cette vision-là du Made in Africa qui est vraiment, vraiment important et qu'elle s'attache et s'y attache dans tout ce qu'elle crée. Et je pense que pour revenir à ta question auparavant où tu me posais la question, est-ce qu'il y a d'autres pays ou d'autres environnements qui sont sensibles à la créativité africaine où on pourrait développer nos marques? Je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie le continent en fait. Le continent est vraiment important dans le sens où on a énormément de personnes, on a cette soif-là. Des Africains, ils ont soif en fait de se vêtir et d'être fiers en fait de la création qui vient de leur continent, qui vient de leur pays. Donc, faut pas oublier aussi de garder le consommateur africain en tête, de pouvoir aussi le rendre accessible, bien sûr, en termes de prix, mais et ils sont aussi au cœur en fait du développement et des opportunités en Afrique. Voici mes listes des African designers. Et il y en a d'autres, bien sûr.
Ok, bah écoute, merci beaucoup. J'ai cru que tu allais faire une liste avec eux des designers du Nigeria. J'allais dire. J'allais dire, il faut que j'en rajoute un, sinon ils vont me dire, mais c'est quelle propagande.
Non, 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 quand même.
En tout cas, c'est que des designers que j'ai eu. Ouais, que je connais, que j'apprécie particulièrement, que je trouve extrêmement talentueux. Donc, je mettrai bien les liens pour qu'on puisse effectivement, avec ce podcast, donner l'opportunité à certains qui ne les connaîtraient pas de les découvrir et puis à ceux qui les connaissent déjà de les redécouvrir. Parce que c'est important, finalement, de dire les noms et de présenter, en fait, chacun avec nos plateformes respectives, de mettre en avant, en fait, les professionnels du secteur qui y mettent en place des choses. L'objectif, c'est que nous, on soit les premiers à pouvoir mettre de la lumière sur eux. En réalité, ça fait aussi Absolument. Partie de notre mission, en fait.
Absolument. Et franchement, je voudrais te féliciter, te donner tous tes flowers, tes fleurs aujourd'hui, parce que je trouve que ce que tu fais, pas seulement ton activité professionnelle, mais ta passion pour développer le African Fashion Tour et de mettre en avant toutes ces marques-là, de mettre en avant les voix, les passionnés, les acteurs. En avant, je trouve que justement ça répond encore une fois à ce problème de manque de visibilité et tu es justement en train d'être active en fait et d'être vraiment une sorte de contributrice en fait à ce problème, à cette solution. Et je voudrais vraiment te donner toutes tes fleurs. Franchement, c'est incroyable ce que tu fais et j'ai hâte de voir comment ce podcast va évoluer.
Bah écoute, merci beaucoup. À mon niveau, la pierre que j'ai décidé de poser à l'édifice, je me dis que il y a énormément de créateurs talentueux, il y a énormément de gens qui sont doués pour le storytelling et en fait, ils ont besoin du micro. Et je me suis dit, c'est là-dessus qu'on a, dans le développement de la créativité africaine, je pense qu'on pense souvent à se dire, il faut forcément créer des marques ou créer des équivalents de Zara et H&M, mais il faut aussi des équivalents de Vogue et de Harper Bazaar.
C'est ça.
Parce que l'écosystème c'est de la mode, c'est plusieurs industries, en fait, qui sont, en fait, connectées les unes aux autres. Et donc, toi, en tant que experte création, en création de contenu, consultante en personal branding, bah, le fait d'accompagner des entrepreneurs dans les industries créatives, c'est aussi ta manière de donner de la visibilité qualitative au travail qui est fait sur le continent. Et donc, je te donne tes flowers à toi aussi.
Merci.
Et donc là, en général, je finis, même si là, pour le coup, je pense qu'il y a plein d'éléments qui permettent déjà de répondre à cette question, mais j'aime bien finir par cette question qui est, voilà, quelle est selon toi la définition de la mode africaine? Toi, comment tu la définis? J'aime bien finir par ça et ça m'intéresse beaucoup d'avoir ton avis à toi, puisque on sent que t'es toujours, et depuis le début, c'est ce que t'as décrit, entre tes identités franco-nigériennes qui a eu l'opportunité de voyager à travers le monde. Et je trouve ça intéressant, du coup, que toi, tu puisses donner ta vision.
C'est une super belle question. Moi, j'aime bien plutôt dire, au lieu de dire African fashion ou la mode en Afrique, j'aime bien dire fashion made in Africa. Je trouve que le made in Africa, je trouve que c'est vraiment hyper important. Ma vision aujourd'hui de l'African fashion, ce serait qu'on puisse garder, je sais que c'est difficile, hein, mais de garder cette label de made in Africa. Et quand on dit made in Africa, c'est pas seulement en termes de logistique, en termes de création, mais c'est aussi en termes de créativité. J'envisionne et je vois en fait cette industrie devenir une sorte de hub de créativité. Vraiment, parce que déjà, le continent africain, pour moi, c'est le cœur de la créativité du monde. J'ai toujours dit ça et je le pense vraiment. Et je veux qu'en fait, l'Afrique soit vraiment le hub de la créativité africaine, de la mode, en fait. Donc, c'est vraiment ça, ma vision. C'est une vision dans laquelle où on continue à raconter nos histoires, à célébrer nos histoires au travers de la mode, à dire qui on est. Et c'est nous-mêmes qui détient vraiment le pouvoir de raconter ces histoires-là. Donc, et je trouve ça, c'est puissant aujourd'hui. On n'avait pas ça il y a 50 ans, 100 ans, on n'avait pas cette opportunité-là de faire ça. Aujourd'hui, on a cette opportunité-là de raconter nos histoires au travers de la mode et d'autres industries. Donc, la façon dont je vois d'ici 5 ans, 10 ans, 20 ans, c'est que, en fait, les gens disent, ah ouais, l'Afrique, c'est là où il y a la créativité. La mode africaine, c'est le cœur de la créativité. Si les gens veulent, ça existe déjà, hein, dans ce sens qu'il y a des gens qui font déjà ça, mais ça va être vraiment la première chose auquel on va penser. On va dire, OK, si j'ai envie d'être inspiré en termes de mode, je vais aller en Afrique, en fait. C'est là-bas que je vais être inspiré. Donc, voici ma vision.
Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup pour ce discours, je dis, d'ambassadrice, hein, de la mode africaine. voilà, je pense qu'on va commencer à nominer des gens qui vont prendre des postes de gouvernement, voilà, dédiés à la promotion de la créativité africaine. Et il doit y avoir, en fait, des voix comme la tienne qui s'expriment avec un point de vue qui, pour moi, est pas ethnocentré. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est cette double culture que tu as. Elle te permet de proposer un avis et une voix qui est un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et pour moi, c'est super important de t'avoir. Donc, je te remercie d'avoir accepté mon invitation et d'avoir, comme ça, passé du temps avec moi pour pouvoir partager tes idées, ta manière de penser. Et l'idée, bah, c'est que ça puisse être entendu par un maximum de personnes pour pouvoir un petit peu challenger les idées reçues et préconçues qu'on peut avoir sur la mode africaine. Pour moi, le meilleur moyen de faire changer les a priori, c'est de demander à des Africains de parler de mode africaine.
C'est ça. Non, merci beaucoup. C'était un plaisir de partager toutes ces... toutes ces connaissances, cette passion-là, et j'ai hâte de voir où est-ce que tout ça, ça va mener. Je suis excitée, en fait. Je suis vraiment excitée par rapport à l'avenir.
Écoute, je suis dans le même, dans le même état d'esprit. Je pense qu'on a, on a plein de choses. Voilà, le chemin est ouvert, en fait. Et qu'il y a, c'est comme si, je vois pas d'obstacles, en fait. Je vois que des opportunités.
Yes, que des opportunités. Ouais, c'est ça le bon mindset à avoir.
Très bien. Bah écoute, merci beaucoup. Je te dis à très bientôt en Afrique.
Merci. D'ailleurs. Merci beaucoup, Ramata.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que cette interview vous a plu. Pour soutenir mon initiative et donner de la portée au message des créateurs du continent, je vous propose 3 actions. Abonnez-vous sur Spotify ou Apple. Partagez l'épisode à 3 de vos amis, prenez le temps d'évaluer le podcast et de mettre 5 étoiles. Merci encore et à très vite en Afrique ou ailleurs.